Bonjour, bienvenue dans La mort tout un art. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce projet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti! La mort, tout un art. L'art d'avoir créé le spectacle Hibou, du théâtre pour réussir sa mort et celle des autres, avec Nicolas Chapoulier et Renaud Vincent. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Nicolas Chapoulier, metteur en scène, et Renaud Vincent, musicien et comédien de la compagnie des Trois Points de Suspension. Nous parlons du spectacle Hibou qui tourne dans toute la France depuis 2020 et qui va s'arrêter fin 2024. On évoque aussi le projet de coopérative funéraire que porte Renaud Vincent, ainsi que de Fantôme, avec l'écriture à plusieurs mains d'un livret dédié à ce sujet. Tout au long de cet épisode, vous entendrez certains morceaux de l'album Hibou, un album à retrouver sur Bandcamp. Mais d'abord, le spectacle Hibou, c'est quoi ? Dans la présentation qu'il en est faite par l'équipe, Hibou, c'est une messe contemporaine qui explore nos manières de faire du rite, nos représentations du deuil. Hibou est aussi une histoire chorale qui nous raconte et nous invente. Autour d'une table ronde, trois musiciens, comédiens et un conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparus. Ils invitent le spectateur à plonger dans un monde où vivants et morts bricolent à partir de leur héritage pour leur permettre de mieux vivre ensemble. On y parle avec tendresse et humour de la mort, de croyances, de rites et cérémonies, de spiritisme de passé et de futur, d'immortalité et d'éternité. Hibou sera l'occasion d'enterrer collectivement un spectateur, d'échanger avec Gilles Deleuze, Thomas Edison ou Victor Hugo et de rencontrer le fantôme que nous allons devenir. Et l'avantage de faire un spectacle sur la mort, c'est que personne ne sait ce qu'il y a après. Alors on peut dire ce qu'on veut. Extrait. On entend une musique céleste qui pour quelques instants nous délaisse. Du poids de la vie, des poids du souci qui se démile de nos oreilles. Crie l'archange Gabriel à la harpe, à la voix qui est un vieux crabe, carpe, à la viole du vent, une vierge, voilà, magnon, ça va vivre l'éternel. Et tous ces mélodies magiques, modèles d'artistes fantastiques qui tentent de contrer à elles seules tous les secrets de la conscience.
Je ne suis pas Thomas Edison, je suis Gilles Deleuze. J'imagine que vous devez être déçu, vous vous attendiez une star américaine, vous vous retrouvez avec un vieil intellectuel, philosophe français, enfin bon, voilà.
Non mais vous savez, on ne sait jamais vraiment sur qui on va tomber hein, quand on a perdu l'esprit, donc...
Que font ces gens qui continuent à entretenir un rapport? On voit bien qu'on est encore pris dans cet élan de la psychanalyse freudienne qui nous enjoint à faire le travail du deuil. C'est un travail qui doit se dérouler dans ce grand théâtre qu'est l'esprit humain, où se jouent et se rejouent sans cesse les mêmes scènes pour tout le monde. Et dans ce théâtre, le mort n'a d'autre rôle à jouer que celui de se faire oublier.
Que fait-on de nos morts ? Quand on perd quelqu'un, est-ce qu'on efface son contact de notre répertoire téléphonique ? Est-ce qu'on efface le jour de la mort, le jour de l'enterrement, un an après, 10 ans après ?
Joie, dépassée, de l'implicite au mensonge, dépassée, regardez les étoiles sous le soleil, dépassée, ton tatouage, dépassée, ton collier, dépassée, à quoi du Marco, dépassée, cette vie qu'on s'est refusée, dépassée, achevez de prier, dépassée, que s'est-il passé, dépassée, Lilou, dépassée, Dieu vit sur le bienvenu, dépassée, souffrance, dépassée, ok, dépassée, pourquoi pas moi, dépassée, j'ai pété sa voiture, dépassée, je veux un dernier pas perdu, dépassée, dépassé, c'est lui, dépassé, racine, famille, lâchez prise, dépassé, dévastation, regret, pardon, dépassé, fenêtre, dépassé, amour, papa, toujours, dépassé, prends le train, dépassé, étrange, départi, dépassé, manque, tu me manques, j'ai passé mon moment avec toi, dépassé, ma bonne étoile, dépassé, oubli, dépassé, il paraît de te citer, dépassé, Patrick, dépassé, 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 dépassé,
Nicolas Chapoulier et Renaud Vincent, vous faites partie de la compagnie des Trois Points de Suspension. Nicolas, vous avez mis en scène le spectacle Hibou en 2020.
Tout à fait.
Dont le genre est un tutoriel théâtral pour réussir sa mort et celle des autres. Et Renaud, vous êtes l'un des comédiens aux côtés de Jérôme Colou et de Cédric Cambon. Alors vous êtes comédien, mais vous êtes aussi musicien.
Alors je dirais que même plutôt je suis musicien et que je me suis mis à trouver la voix avec Hibou. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé.
Ah d'accord.
Parce qu'il a passé son diplôme de conseiller funéraire, c'est pour ça.
Et c'est depuis le diplôme de conseiller funéraire que vous avez plus parlé dans le spectacle ? C'est plutôt dans ce sens-là ?
C'est exactement dans ce sens-là. Au départ avec Hibou, il y avait aussi, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais il y avait vraiment la volonté déjà dès le départ avec Jérôme Colou, on se retrouvait autour de la question de la musique. Comment, avec la musique, pouvoir travailler sur des états, travailler tout en parlant de cette question de la mort, mais voilà, utiliser la musique comme médium pour voir où c'est qu'elle peut nous emmener, voir comment elle peut offrir des respirations à des gens quand on parle de sujet, comment elle permet au contraire de rentrer plus profondément dans le sujet via la musique. Donc c'est parti au départ aussi de ça, de cette envie très forte de musique autour de ce sujet.
Et là, pourquoi vous avez voulu passer ce diplôme, cette formation, suivre la formation avant même le diplôme?
Oui, en fait, je pense que ça faisait longtemps que ce sujet, moi, m'intéressait à titre personnel. Et puis, à partir du moment où on a commencé à travailler sur ce sujet avec Jérôme, avec Cédric, avec Nicolas et avec les Trois Points de Suspension, ça devenait une évidence de passer ce diplôme parce qu'on avait envie aussi de savoir comment ça se passait concrètement en France. C'était à l'époque, c'était en 2017. Donc, voir comment ça se passait vraiment, la réglementation en 2017, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait mettre nos nez là-dedans et voir ce qui était possible. Et puis bon, autant dire que quand on est musicien et qu'on va voir l'AFDAS ou Pôle emploi pour se faire payer une formation comme ça, ils arrivent vraiment les bras ouverts pour vous payer cette formation diplômante. Donc c'est, voilà. Et puis on le répète que c'est une formation qui est quand même assez courte, hein. C'est un mois de théorie et puis 2-3 semaines de stage pratique. Donc c'était assez facile de placer ça dans mon emploi du temps entre les concerts et les résidences.
Là, ça a un petit peu changé, mais effectivement, ça reste une formation accessible et effectivement, ça n'a jamais été aussi facile d'obtenir les droits à cette formation pour ma part. Moi, depuis que j'ai débuté ce podcast « La mort, tout un art », donc en 2021, on m'a envoyé une dizaine de fois le lien vers le spectacle « Hibou », un spectacle de référence dans le monde du spectacle et du funéraire. C'est une question que je vous pose. Est-ce que pour vous, là, le spectacle « Hibou », c'est devenu une référence où vous n'avez pas du tout
Ce retour-là. Alors, je ne sais pas trop répondre à cette question-là, parce qu'on ne sait jamais de quoi on est référencé, quoi. Après, disons qu'en tout cas, nous, on a pris le sujet de manière assez frontale. Donc, c'est vrai qu'au final, on avait envie d'être à cet endroit-là aussi, hein, de pouvoir être un peu ressource sur ces questions-là. Et c'est vrai que la spécialisation de Renaud nous a permis aussi de pouvoir répondre à tout un tas de personnes qui, souvent, à la fin... Au tout départ du projet, en fait, c'était plutôt une sorte de permanence qu'on avait montée dans un centre d'art contemporain, à la Genèse, et qui travaillait sur les relations qu'on entretient. C'était vraiment un ensemble de plein de performances assez variées, dont, qui travaillait sur l'idée de relations, en quoi on est en relation avec les animaux, en quoi on est en relation avec nous, avec notre bien-être. Et il y en avait un, c'était quelle relation on entretient avec le fantôme qu'on va devenir. Et puis, au final, c'est une permanence qu'on a fait pendant un long moment. Puis il y a eu tellement de personnes qui sont venues participer. Donc c'est une permanence qui a été dirigée par Jérôme et Renaud. Et au final, ça nous a permis d'entendre tellement de témoignages, tellement de personnes qui sont venues. Puis qu'au final, ces espaces de sociabilité, ces espaces de discussion qui sont créés avec cette proximité que ça met, cette intimité que pose en fait ce sujet-là qui est la mort. En fait, ça nous a donné énormément de témoignages, énormément aussi de confiance en nous aussi pour se dire, on est légitime pour pouvoir aussi, en redire quelque chose. Voilà.
Et oui, pour rebondir aussi sur ce que disait sur Nicolas sur cette permanence, ce qui était assez fou pour nous, c'est que donc, les gens rentraient dans la pièce, ils ne savaient pas de quoi on allait parler, c'était une ou deux personnes. On commençait à parler, les gens disaient, je vais partir. Et puis finalement, il restait une demi-heure, 40 minutes, 50 minutes. Les gens voulaient plus partir. Donc on sait. Et puis il y avait tout de suite un niveau de discussion qui était aussi assez élevé. Donc ça nous a vraiment donné envie de continuer à creuser. Et puis toute cette matière, alors elle n'est pas dans le spectacle concrètement, mais en tout cas, elle nous a donné, je pense, une sorte de ressources et d'assises pour se dire, on va en parler, on va vraiment en parler, et ça va vraiment être super.
En plus, je rebondis encore sur toi, Renaud, mais je pense que c'était aussi à un moment donné où c'était un spectacle assez charnière dans notre pratique aussi, c'est-à-dire qu'il a quand même une peut-être ça peut répondre aussi à la question qui est référence, c'est-à-dire qu'on était à un moment donné où on ne savait pas trop jusqu'où on devait fictionnaliser pour aller dans cette performance, enfin ce spectacle, jusqu'où on interprète des personnages, jusqu'où on joue des rôles, et je crois qu'en fait, la simplicité du dispositif devait rester en fait et être le tapis de Hibou. Et au final, on a passé 2 ans après à répéter. La création a été très très vite là et on a essayé de rajouter plein de choses. Et au final, on a fait que les faire disparaître, les gommer, les épurer pour être au final assez proche de nous, même si ça ne nous empêche pas d'être des nous amplifiés et de pouvoir jouer la comédie depuis nous. Mais je pense que c'était important qu'on arrive à se connecter à un régime de sincérité en tout cas.
Est-ce que vous pourriez décrire le spectacle Hibou pour les auditeurs et les auditrices qui ne l'auraient pas vu ?
C'est vache. En audio description, je vais le faire en mime, comme ça sera encore mieux pour le...
Et donc je décris.
Renaud, je te laisse, c'est toi qui le connais mieux ce spectacle finalement.
Non, mais je crois que c'est ce qu'on a dit, c'est on le place comme une idée de tutoriel pour réussir sa mort et celle des autres. Mais je dirais que plutôt, c'est, je crois qu'on convoque des personnes à venir participer à un moment où on va aborder ce sujet de la mort. Et nos sujets de plein d'angles assez différents. On pourrait dire que même dans la narration, il n'y a pas vraiment, il y a pas grand chose qui se suit, mais il y a un peu des blocs comme ça qui se répondent, où on va aller piocher du côté du transhumanisme, parler de la question du relation qu'on entretient avec nos morts, passer à des endroits où on revient à des choses... vraiment plus concrète, comme on disait, sur la question du légal, comme ça, et on traverse un peu tous ces états, tous ensemble, et tout ensemble, c'est vraiment, je pense, c'est une sorte de, moi je dirais, c'est une sorte de petite cérémonie collective, de petits rites qu'on fait tous ensemble pour aborder ce sujet. Donc là, ça, comme résumé.
Donc le sujet, c'est la mort, ce sont aussi les fantômes. Il y a quand même une place donnée aux fantômes, beaucoup de musique, une scénographie circulaire et une place importante du public. Est-ce que vous vouliez en dire un mot, Nicolas ?
Alors, en fait, disons qu'il y a le circulaire donc, qui fait que, et la petite jauge aussi, qui fait qu'on est sur une jauge de 250 environ, et qui permet que bah, du coup, le public peut aussi se voir, et qu'en fait on est les uns et les autres tous ensemble dans le même bateau. Ce qui est même dit au début un peu du spectacle, et puis avec l'idée que ça soit aussi un espace qui puisse être ouvert et que les gens puissent en partir et en revenir. C'est vrai qu'il y avait un peu l'idée d'agora, en fait, de se dire on prend ce sujet-là, on le met sur la table, et puis on le déploie, on le déplie, on le dissèque, on fait une sorte d'anatomie, on essaie de... Et au final, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un sujet qui, dès que tu rentres dedans, en fait, il en appelle des milliers. Il appelle la vie, évidemment, mais il appelle aussi les fantômes, l'invisible, la religion, la croyance, le réel, le rite, l'histoire, la reproduction, la sociologie aussi est convoquée un peu dedans, puis aussi comment on fait aujourd'hui à une heure... avec une perte du religieux notamment, comment on refait du rite, comment on fait du commun, du semblable, à une heure de l'individualisation des rites et des cérémonies et des pratiques. Et qu'au final, nous, ce qui nous a toujours assez touchés aussi, c'est la manière, et d'interroger, pour moi, c'est là où il y a un endroit aussi du théâtre qui est intéressant, c'est dans les bricolages symboliques qu'on produit, que chacun, chacune produit de manière un peu instinctive, quand tu as des ados qui commencent à bricoler des cérémonies parce qu'ils ne savent pas faire. Et puis, bah, des fois, ça peut être vertigineux parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'arrive pas très bien à s'organiser. Puis d'un coup, ça peut être aussi extrêmement vivifiant, lumineux, incroyable, d'inventivité. Et qu'au final, bah, ces moments-là, ils servent... dans ces questions-là, d'appréhender la mort. On a beaucoup fui la notion du deuil parce qu'on a lu des choses à un moment donné qui nous disaient que c'était un concept qui pouvait être... parce que c'est Vinciane Després qui dit qu'il faut faire son travail du deuil comme c'était un travail. Et que c'est vrai qu'on a plutôt essayé de se dire que comment ça peut être un endroit de relation, justement, dans lequel les vivants et les morts ont besoin sans cesse les uns des autres pour continuer cet agora. Donc quelque part, cette agora, elle est aussi là pour convoquer aussi les vivants et les fantômes chez chacun, chacune, qui sont aussi en tant que spectateurs. Et puis nous, les fantômes qu'on joue, parce que c'est notre boulot aussi d'être hanté par des personnages. C'est notre boulot de se faire hanter par des entités, par jouer des bricolages de nous, voilà, tout ça.
Et oui, ce qu'on pourrait dire, c'est ça, c'est que voilà, même si le spectacle est plutôt, on pourrait dire, assez écrit, même très écrit, on se rend compte que voilà, on a eu la chance de le jouer beaucoup et vraiment chaque fois il est très très différent. Enfin les personnes qui sont là vont vraiment teinter ce moment-là avec de qui ils sont et d'où ils viennent. Voilà.
Après pour le spoiler, je spoile tout, je fais quoi à la fin?
Ah bah c'est vous qui voyez.
Non alors je spoile pas tout. Je garde des secrets.
On ne parle pas de la participation active du public.
Bah, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin...
Par exemple.
En effet, on propose durant ce spectacle à une personne du public de participer à sa propre cérémonie funéraire. Donc voilà, quelqu'un va se proposer, on va commencer à mener un entretien pour savoir quelle va être sa cérémonie, etc. Puis on va lui faire... sa cérémonie. Et ça arrive un peu au début du spectacle. Et voilà, on se rend compte que bah, selon qui est la personne qui va décéder, de quoi, etc., en fait, ça teinte le spectacle très, 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 très fort. Et puis, on a eu des fois, à des moments-là, vraiment des cadeaux, vraiment des très beaux cadeaux, parce que après, quand la personne est morte, on demande à des gens qui sont autour d'eux bah, s'ils veulent venir échanger un mot, dire quelque chose. Et des fois, on a des témoignages qui sont vraiment. Superbes. Donc on a quand même ça qui vient rentrer et qui vient faire bouger le spectacle à chaque fois et qui va lui donner une coloration très particulière à chaque représentation.
Qui rejoint aussi la cérémonie du coup funéraire avec des témoignages, avec une implication des acteurs, des actrices, beaucoup de musique aussi, une mise en scène.
À la fin, c'était ça que je voulais pas spoiler, disons qu'à la fin, il y a la notion, on voulait se dire comment on fait un rituel avec les personnes qui sont là, comment on fait cérémonie. Et c'est vrai que c'est toujours complexe, et je parlais de bricolage juste avant, bricolage symbolique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que c'est les outils qu'on utilise pour faire du commun, et puis comment réinventer des nouvelles formes aussi, ce qui est aussi notre boulot de mise en scène, de scénographie, d'accessoires, qu'est-ce qu'on convoque, qu'est-ce qu'on met. Donc nous, on a voulu utiliser un petit peu les réseaux numérique, enfin des téléphones portables, pour voir comment on peut faire aussi, comment ces pratiques en fait ne nous éloignent pas tant que ça au final des fantômes, mais plutôt en fait on rajoute de nouveaux modes de relations, des comptes Facebook qui continuent à être alimentés aujourd'hui au numéro de téléphone qu'on continue à garder dans nos archives, etc. Enfin, il y a clairement dans ces outils-là des nouvelles manières d'entrer en communication avec une forme d'au-delà, en tout cas.
Oui, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce que pour vous un fantôme ?
Moi, je m'arrêterai quoi, à la définition quoi, de Vincent Després, je crois, qui dit dans son bouquin, c'est tout ce qui reste vivant d'une personne décédée dans le monde des vivants. Enfin, tout ce qui reste présent d'une personne décédée dans le monde des vivants.
Et moi, je crois que nous, ce sur quoi on a travaillé, c'est aussi sur tout ce qui hante. Et en fait, on se rend compte qu'on peut... Il y a énormément de choses qui continuent à hanter le présent dans lequel on est constamment. Et qu'en final, ces présences, elles ont plein de formes diverses et variées. Et elles ont aussi ce qu'on appelle en anthropologie un pouvoir d'agentivité. C'est-à-dire que ces présences, elles nous influent, elles nous modifient, elles nous transforment sans cesse. Que ça soit de la maison Jacques Prévert ou de ce nom qui peut très bien... Enfin, c'est plus Renaud, à un moment donné, on avait ce texte qui disait que pour un poète, en général, on finit souvent dans des maisons de quartier. Quand les générales d'armée finissent plutôt dans des noms d'avenues. Et c'est assez drôle, parce qu'il y a... on peut aussi dire que les fantômes ont 80 ans d'espérance de vie, à part les fantômes célèbres. C'est ce dont on parle aussi un peu dans le spectacle, c'est-à-dire... qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui disparaît. Puis on est aussi aujourd'hui dans une heure où on veut tout archiver, constamment avoir une nouvelle mémoire, et qu'au final, peut-être qu'il faudrait apprendre toute une vie à savoir comment apprendre à disparaître.
Et vous me parliez du livret que vous avez co-écrit. Est-ce que vous voulez là en dire un mot ?
Alors, on est en train d'écrire encore un petit livret qui s'appelle « Devenir fantôme ». Qui est une sorte de manuel sur quel type de fantôme on veut devenir post-mortem. Donc il a un côté volontairement ludique, mais je crois qu'il va questionner plein de choses dans plein de ramifications philosophiques, sociologiques et anthropologiques, et qui vient un peu questionner cette relation aussi à ce qu'on va laisser, ce qu'on va être, et qu'au final c'est assez intéressant aussi à quel point le fantôme qu'on va devenir influe sur la personne qu'on est aujourd'hui. Est-ce qu'on veut être un fantôme réconfortant ? Est-ce qu'on veut être quelqu'un qui veut être oublié rapidement ? Est-ce qu'on veut être un fantôme arrangeant ? Est-ce qu'on veut être un fantôme drôle ? Est-ce qu'on veut hanter les gens ? Est-ce que quel type de... Et puis, donc, dans ce petit manuel, on parle d'amplification, de prolongation d'existence, quoi. C'est comme si une sorte de... qu'on pouvait amplifier un petit peu plus qui on va devenir. C'est pas l'ego trip de se dire « je veux tout contrôler ». C'est plutôt de commencer à regarder qu'en fait, post-mortem, notre identité, elle va s'exploser, elle va s'éparpiller dans des milliers de petites choses, des objets qui nous ont côtoyés, aux musiques qu'on chantait, aux petits gestes qu'on avait qui vont continuer à rester dans le souvenir des personnes qui sont présentes, mais aussi toutes ces choses qui hantent la réalité après notre présence. Donc on essaie de voir, et puis de jouer avec un petit peu tous ces endroits, comment on peut s'accrocher un petit peu post-mortem.
Thank you.
C'était le titre Hibou de l'album Hibou. Vous écoutez La mort tout un art. On poursuit notre discussion avec Nicolas Chapoulier et Renaud Vincent de la compagnie des Trois Points de Suspension.
Je reviens aussi sur la musique. Est-ce que la musique ou comment la musique est-elle un lien pour nous relier à nos défunts ou invoquer des esprits? Voilà, quelle est la place de la musique? Quel est son rôle?
Alors, comme je disais, nous, dès le départ avec Jérôme, il y avait la volonté très forte d'utiliser la musique. La musique, voilà, en tout cas dans le spectacle, elle est là pour soit plonger plus profondément dans le sujet, soit au contraire, on sent que des fois, les gens ont besoin de s'extirper pour prendre du recul parce que c'est trop, enfin, ou permet, voilà, on a beaucoup travaillé aussi sur les musiques de répétition, comment on peut rentrer dans les sortes d'états, entre parenthèses. Donc, nous, c'est un peu tout ça qu'on allait chercher. Comment la musique, comment les sons permettent de nous rassembler et puis de nous amener dans des états assez spéciaux. Et on se rend compte la musique est assez présente dans nos rites, que ce soit en Occident ou ailleurs, quoi, comme vraiment comme médium. Donc c'est ça qu'on voulait utiliser. Et puis quand on parle de fantômes, quand on parle de tout ça, on se rend compte aussi de toutes ces chansons en fait qui nous habitent, de toutes ces chansons qui vont nous hanter, qui vont nous rappeler quelqu'un, comment c'est toutes ces chansons, enfin, peut-être moi, parce que je suis musicien encore plus, mais comment elles teintent aussi toute mon expérience de vie, et comment elles teintent des moments, comment elles donnent des couleurs à des moments, comment elles rappellent des moments, comment ça vient des sorbets, c'est des sortes de, à chaque fois, de rappel, le son. Donc on avait très envie et très fort d'utiliser ce médium-là.
Si je peux rajouter, il y a aussi l'idée d'interroger aussi de la manière, des fonctions qu'ont les musiques au sein de cette thématique qu'est la mort. Parce qu'on peut très bien avoir des musiques pour célébrer, des musiques pour honorer, des musiques pour prier, des musiques... Donc la transe peut aussi être un endroit et aussi pour commémorer. Et qu'en fait, ça peut être aussi un endroit, comme disait Renaud, pour s'échapper, mais qu'en fait, que la musique, en fait, elle a déjà des fonctions, et qu'en fait, et puis c'était ça aussi l'idée que chacune des musiques qui sont dans le spectacle, elles ont toute une fonction qui est reliée à une manière qu'on a de travailler la mort. Et faire rite aussi, évidemment.
Là, on parle du spectacle Hibou précisément, mais on peut préciser que dans d'autres créations de la compagnie Les Trois Points de Suspension, les rites, le passage, vous traitez déjà ces questions, que ce soit la Hibou avec la mort, mais l'enfance, le subconscient. J'ai repéré une citation là sur le site de la compagnie. C'est inscrit « Inventer des histoires pour qu'elles se prolongent dans nos vies ». Pour trouver des prétextes à nous enlacer, pour anticiper le jour où l'on sera enfin heureux, pour profiter pleinement de la grande aventure d'être nous autrement. C'est ce que vous permet le théâtre ?
Alors le théâtre pour nous, donc nous on vient pas vraiment du théâtre, donc au final je crois qu'on fait plutôt du travail... On fait plutôt des spectacles, on raconte plutôt des histoires pour des lieux, et que le théâtre peut être un lieu dans lequel on le fait tout aussi bien qu'un autre. Voilà. Et c'est un super lieu, le théâtre, mais on aime bien aussi jouer pour des parkings, des voitures, mais aussi des lieux immatériels, comme justement des fantômes. Et en fait, on aime bien situer en fait, nos histoires, et puis souvent, on aime bien partir des diagnostics, d'établir des diagnostics sur les lieux dans lesquels on arrive, ou dans lequel on va déployer des spectacles, et puis de voir comment, dans ces récits-là, qui peuvent être sociologiques, affectifs, géologiques, politiques, peu importe, on peut nouer des récits, à les interlier.
Le spectacle Hibou tourne depuis 2020, il a d'ailleurs été plusieurs fois programmé sur Rennes et autour de Rennes. Va-t-il encore se poursuivre ?
Eh ben, moi, je me permets, voilà, dans Hibou, du coup, c'est assez chouette. On lui a trouvé une fin, en tout cas, en octobre 2024, il y aura les dernières de ce spectacle Hibou. Donc, on a la chance de pouvoir faire aussi une petite cérémonie d'adieu. Mais d'ici là, il va encore jouer un petit peu beaucoup, à plein d'endroits assez différents encore.
Le spectacle Hibou, c'est bientôt fini, alors allez voir sur le site les prochaines dates. Hibou est notamment programmé en Gironde au mois de mai, en juin à Grenoble, en juillet à Mulhouse et en octobre du côté de Lyon.
Et donc vous avez prévu de célébrer sa fin ?
Enfin, non, en tout cas, c'est, je crois que c'est la chance de pouvoir... On a eu la chance de beaucoup le jouer, de collecter beaucoup d'histoires aussi, parce que ce spectacle Hibou, il ne s'arrête jamais à la fin de ce spectacle. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin, on ouvre aussi sur la question de la parole. Donc, il y a encore un moment qui est encore vraiment très chouette de ce spectacle où on prend un vrai temps, on prolonge la discussion avec les gens, que ce soit sur des questions pratiques, sur des questions. Donc, on a collecté encore beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui nous ont nourris. Et on a eu beaucoup de morts là pendant toutes ces cérémonies. Et alors, ouais, on va essayer de célébrer, en tout cas, je ne sais pas si on va faire quelque chose de particulier, mais on va essayer de trouver une manière de le clôturer. En tout cas, on saura que c'est la dernière fois que Hibou fera cérémonie en octobre 2024. Donc on va en profiter.
Et à la fin du spectacle, Renaud, quand je l'avais vu, c'était à Saint-Jacques-de-la-Lande, donc il y a plus d'un an maintenant, vous aviez annoncé que vous envisagiez l'ouverture d'une coopérative funéraire. Où en est ce projet ?
Eh bien, cette coopérative, enfin, l'entreprise funéraire existe maintenant. Moi, je suis à Valence. C'est une entreprise funéraire qui s'appelle Cairn et qui est en train de se transformer en coopérative cette année. Donc tout l'enjeu pour moi, et puis pour cette coopérative, c'est assez simple, il y a un besoin, une envie, je pense, des gens de faire un peu autrement, de trouver des manières de faire autrement le rite. Et je pense que le modèle coopératif ouvre cette possibilité, en tout cas aux personnes, d'arriver, pour les gens qui en ont besoin, d'arriver à dire, attendez, ok, c'est quoi vraiment vos envies, c'est quoi vraiment vos besoins pour faire vos cérémonies. J'ai l'impression que les coopératives peuvent être là aussi pour ouvrir le champ des possibles. Parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire comment on fait chaque fois avec des histoires différentes, avec des morts différents, avec des besoins, des envies différentes, pour arriver que ce moment soit unique, mais qu'il soit célébré au bon endroit pour toutes les personnes qui sont là. Et c'est bien ça toute la difficulté, je crois, actuellement dans nos sociétés. C'est pas tant de faire des cérémonies personnalisées, parce que ça existe déjà, mais c'est comment, bon, la question en tout cas qui me préoccupe et qui me préoccupe via la coopérative qu'on est en train de monter, c'est comment on crée du commun à ces moments-là, c'est-à-dire comment on arrive à faire cohabiter dans ces cérémonies en 2024, comment on fait cohabiter nos familles, nos amis proches, des collègues, comment on fait dans ces sociabilités qui ont vachement... qui ont beaucoup changé, en fait, voilà, où c'est pourtant, maintenant, c'est encore la famille qui prend en charge, mais on sent bien qu'on est très proche de nos amis, peut-être même des fois plus, donc comment on fait cohabiter tout ça, et comment on arrive à créer du commun, et on se rend compte que, pour moi, c'est ça l'enjeu, et c'est pas forcément évident, et alors peut-être des fois même on n'y arrive pas, et il faut se résoudre, du coup, à faire des fois plusieurs cérémonies, accepter de se dire, il va y avoir une cérémonie A, puis une cérémonie B, qui ne seront pas pour les mêmes personnes, pas pour les mêmes besoins, pour arriver à faire vivre le défunt dans toutes ses facettes qu'il avait, dans toute la multiplicité qu'il était de son vivant. Mais en tout cas, voilà, cette coopérative existe à Valence, elle s'appelle Cairn, et on accueille déjà nos premiers convois depuis la rentrée de septembre.
Et là, vous êtes conseiller funéraire pour cette coopérative ?
Exactement. Moi, l'idée, l'envie, c'est de pouvoir continuer mon travail de musicien qui me passionne, mais voilà, ramener aussi tous ces temps d'échange, d'expérience qu'il y a eu à travers Hibou, dans le concret, dans le réel. Je pense que, comme disait Nicolas, c'est l'envie de ce spectacle, c'était aussi de pouvoir aussi concrètement prendre les choses en main tous ensemble, de se dire, voilà, de faire ce constat, de dire, en fait... En 2020, c'est compliqué encore de faire des cérémonies. C'est pas facile de faire cohabiter tout le monde. C'est pas facile de trouver de la ritualité entre les gens qui sont religieux et les gens qui sont plutôt laïcs. Comment on fait cohabiter tout ça? Et comment on fait pour bricoler tous ensemble? Parce qu'on se rend bien compte que, voilà, nous, on n'a pas de mode d'emploi. mais c'était l'idée aussi de brasser toutes ces questions ensemble et essayer de trouver des solutions ensemble, avec l'idée aussi avec ce spectacle de dire aux gens, en fait, parlez-en de vos vivants, allez-y, si vous ne savez pas quoi faire dimanche au repas de famille, parlez de votre cérémonie funéraire et vous allez voir passer le cap du café. Bah, en fait, quand on commence à en parler, c'est souvent un niveau de discussion qui est assez élevé, on parle de choses importantes dans nos vies, c'est vraiment voilà, mettre ce sujet sur la table et en parler ensemble pour trouver des solutions pour que quand le jour J, on a un décès qui arrive, alors ça sera jamais moins douloureux, on sera jamais moins surpris, ça sera jamais moins dur, mais peut-être que d'avoir anticipé des choses plus concrètes, de donner des choses de son vivant, en fait, voilà, c'est concrètement, si de son vivant, pour un repas, on a dit, en fait, moi, j'aurais besoin de cette musique, ça me ferait plaisir de la voir pour ma cérémonie, le jour de la cérémonie, justement, cette musique, elle aura aussi encore une autre teinte que si on l'a choisie 2 heures avant, au dernier moment. Donc, l'envie, c'est ça, de continuer d'explorer ces questions dans le réel, concrètement.
Et d'ouvrir d'autres possibles, d'autres lieux aussi, j'entends. Et vous, Nicolas, est-ce que vous avez là d'autres projets? Quelles sont vos perspectives?
Alors là, on est, ça a été dit, on vient de finir un spectacle sur l'enfance, sur nos enfants, donc c'était pas mal, on a fait la mort. Derrière, on a pu enchaîner sur nos enfants. Donc c'est un spectacle qui est le premier épisode d'une quadrilogie sur les assignations générationnelles qui s'appelle donc L'âge d'or, être, devenir, avoir été. Et donc le premier spectacle s'appelle L'arrière-pays et c'est, on pourrait dire, une sorte de spectacle, dans les voies de l'enfance. Donc on a enregistré des enfants qui jouent dans les récrés, nos enfants qui font des crises, on a fait des témoignages et puis on les fait rejouer en post-synchronisation par leurs parents. Donc en gros c'est des adultes qui se retrouvent dans des voix d'enfants, qui se retrouvent hantés par des voix de l'enfance, et c'est drôle parce que encore une fois il y a toujours des deuils, et il y a la question des cérémonies est très très intéressante là, à cet endroit là la question du rite aussi, parce que c'est un pays, l'enfance, où on a tous été, mais on ne sait plus très très bien parler la langue. Et c'est drôle, quand on est parent, particulièrement, on a l'impression d'être très proche d'eux, alors qu'on reste quand même toujours très 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 loin. Et donc là, de se retrouver à incarner leur propre voix, que les parents se retrouvent à incarner les voix de leurs propres enfants, de prendre leur gestuelle, de prendre presque du théâtre thérapeutique, pour certaines, voilà. Mais après, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça raconte aussi que, on montre une enfance qui n'est pas forcément tout le temps tendre, qui peut être parfois très mignonne, mais voilà, mettre ses voix sur des adultes, ça devient des pervers narcissiques, ultra-libéraux, bipolaires émotionnellement, très, très incarnés, quoi. Et c'est aussi un spectacle très touchant, je crois, et en tout cas, c'est un spectacle sur nos enfants, donc c'était très chouette de pouvoir enchaîner après Hibou sur celui-ci. Et là, on attaque un peu le deuxième volet qui est sur la notion d'adolescence, et c'est assez drôle aussi quand on interroge cette notion-là depuis... en ce moment, je suis en train de tirer des hypothèses, je me demande où je vais, mais je me dis qu'au final, on est tous des personnes... en transition, et qu'en fait l'adolescence c'est pas vraiment un état, c'est pas un âge en soi, c'est vraiment une métamorphose, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs c'est très compliqué de définir ces moments de la vie, et au final on est dans un moment de l'enfance et en fait on arrive dans le pays des adultes, parce qu'en fait c'est pas un pays l'adolescence, c'est insaisissable, ça n'existe pas, et il y a le moment des hormones, il y a un moment hormonal, il y a une puberté, puis qu'après c'est une réponse politique au final, l'adolescence, à un moment dans lequel on sait pas très bien faire. C'est l'adolescence, c'est très inconfortable, c'est aussi l'arrivée d'un individu ou d'une individu sexué dans un territoire avec lequel il va falloir se partager ce territoire, et donc voilà, l'adolescence a toujours fait peur, et à la fois il y a quelque chose de monstrueux dans cette manière que d'un corps enfantin d'un coup, et aujourd'hui j'étais en train de me dire qu'au final les ados c'était des enfants garous et qu'en fait il y avait une sorte de pulsion de poils et de voix, et qu'en fait ils étaient en pleine mutation pour arriver jusqu'à l'âge adulte, et donc ce projet il est en train de voir le jour pour l'instant dans des formes assez particulières. On expérimente des formes dans des forêts la nuit avec des jeunes ados qui emmène des adultes faire des rituels de passage, voilà, pour aller chercher leur ado intérieur et voir comment ils peuvent aller rencontrer ces êtres en pleine mutation qu'ils ont été et qui sont encore et qui font partie justement des couches de leur existence, et de voir comment on peut aller faire des petits rituels, des petites perfos, des petites choses pour avec des jeunes et des moins jeunes, aller convoquer justement nos monstres intimes.
Génial. Eh bien, ces perspectives 2024 sont fabuleuses.
C'est très chargé.
Moi, je rajoute, en effet, on a parlé un petit peu de ce livret Devenir fantôme, ça va aussi continuer, je pense, à, voilà, avec Nicolas et puis avec, on n'a pas nommé Johanna Roca, avec qui on écrit ce livret. Je pense qu'on a envie de lui donner une forme finale à ce livret, continuer à explorer cette question de la mort et de la relation qu'on a avec nos morts et avec nos fantômes, et puis pouvoir continuer, je pense, à faire exister aussi dans l'espace public ou à des endroits, voilà, ce sujet en tant que tel, comme vraiment juste un espace où on ouvre un endroit pour pouvoir en parler. Alors voilà, on sait que ça existe aussi via les cafés mortels, mais c'est un peu une autre forme. Là, c'est, voilà, c'est comment aussi on utilise ce bouquin, ce livret Devenir fantôme, pour chacun, chacune, aller chercher la relation avec les fantômes qu'on a, avec le fantôme qu'on veut devenir. Et on a envie de continuer, je crois, à poser aussi cette question dans l'espace public.
Et je me permets aussi de rajouter qu'au final, le spectacle de Hibou va se transformer en quelque sorte dans une sorte de projet de recherche pour finir, si on y arrive normalement, pour finir ce manuscrit, qui va s'appeler Maison Fantôme, qui sera mené dans un lieu de résidence à Genève, qui travaille beaucoup sur la notion de nature et de culture, enfin en tout cas des questions autour du vivant et du non-vivant aujourd'hui. Et l'idée, c'est de travailler sur un diagnostic d'une maison qui va disparaître, un lieu d'art, pour migrer vers un autre lieu. Et c'est de travailler sur cette entité, sur cette identité qui s'est mise en place par les pratiques qui ont été faites dedans, et que nous on fasse un diagnostic et qu'on puisse inviter un désensorceleur chrétien qu'un sociologue, et puis de faire, en tout cas, travailler sur les croisements vraiment de manière assez... faire des mélanges assez drôles, en tout cas. Et puis, donc là, il y a l'idée de que Renaud soit là en tant que spécialiste. Et donc, effectivement, aussi Johanna, qui est de Rennes. C'est pour ça que c'est quand même c'est important qu'on la cite bien, Johanna.
Johanna, son nom de famille ?
C'est Rocard.
On poursuit en musique avec Important, le titre issu de l'album Hibou, à retrouver sur Bandcamp.
À savoir, peut-être que c'est à nous, dans l'existence, d'établir cette espèce de calcul de proportion ou de sens vécu de la proportion. Il faudrait dire que oui, qu'est-ce qui est important dans une vie, bon, qu'est-ce qui est important, le critère de l'importance, à quoi vous avez donné de l'importance, c'est l'importance, et il faudrait faire presque de l'importance, on appelle, ah, ça c'est pas important, ça c'est important, il faudrait presque en faire un critère d'existence, quoi. Les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie, est-ce que ce qui est important, est-ce que c'est... De parler à la radio, est-ce que c'est de faire une collection de timbres, est-ce que c'est d'avoir une bonne santé, peut-être tout ça, est-ce que c'est qu'est-ce que c'est une vie heureuse, au sens où quelqu'un meurt en se disant, après tout j'ai fait en gros ce que je voulais, j'ai fait à peu près ce que je voulais, ce que j'aurais souhaité, oui, ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cette curieuse bénédiction qu'on peut se donner à soi-même et qui est le contraire d'un contentement de soi ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette catégorie ? L'important, oh non, oui, d'accord, ça c'est embêtant, mais c'est pas important. Qu'est-ce que c'est ce calcul ? Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est pas la catégorie du remarquable ou de l'important qui nous permettrait de faire des proportions entre les deux sens irréductibles du mot « parti » ? Ce qui dépend et ce qui découle de la part intensive de moi-même et ce qui renvoie au contraire aux parties extensives que j'ai. Les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie ? Est-ce que c'est... les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie ? Est-ce que c'est... les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie ? Est-ce que c'est... De parler à la radio, est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie, est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie, est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie, est-ce que c'est de faire une collection de timbres, est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie, est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie, est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie ? Est-ce que c'est d'avoir une bonne santé, peut-être tout ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est de parler à la radio? Est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est de faire une collection de timbres? Est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qu'ils jugent important dans leur vie? Est-ce que c'est d'avoir une bonne santé, peut-être tout ça. Est-ce que c'est qu'est-ce que c'est une vie heureuse au sens où quelqu'un meurt en se disant après tout j'ai fait en gros ce que je voulais, j'ai fait à peu près ce que je voulais, ce que j'aurais souhaité, oui ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cette curieuse bénédiction qu'on peut se donner à soi-même et qui est le contraire d'un contentement de soi? Contraire d'un contentement de soi.
On termine avec cette citation trouvée sur la page web du spectacle. Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d'habitude. Virginia Woolf. Merci Nicolas Chapoulier et Renaud Vincent.
Merci.
Merci.
Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration. Merci à Renaud Vincent pour les musiques et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.
La grande roue des questions à la con, des quêtes en carré, en rond, fait tourner l'imagination en magie et superstition. En poésie abstraite et frêle, bout de ficelle qui s'entremêle dans l'entrelac de nos esprits trop petits pour partir loin d'ici. Papillon doré qui s'envole avec son auréole au-delà des aurores boréales. On l'entend d'ici qui rigole. Un message à nous faire passer, un messie passe près des trépassés et distribue des buvards imbibés aux sans-papiers de l'éternité pour leur faire passer la pilule à tous ces morts que l'on bouscule et qui attendent sagement leur tour. Quand on s'affaire autour de Saint-Pierre, on entend une musique céleste.